L'expression « convoluté des légalismes » se développe autour de la nécessité de nous masquer à nous-mêmes la violence dont nous usons envers les autres. Entre le fait de priver un homme d'une heure de sa vie et celui de le priver de la vie, il n'existe qu'une différence de degré. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous usons de violence, nous consommons son énergie. Des euphémismes élaborés peuvent dissimuler nos intentions meurtrières, mais tout usage de puissance à l'encontre d'autrui se traduit par l'ultime assomption « Je me nourris de votre énergie ». L'empereur Paul Muad'Dib, Ordre au Conseil, Addenda. La première lune brillait sur la cité lorsque Paul sortit de l'impasse, enveloppé dans le halo d'énergie de son bouclier. Le vent venu de la montagne soulevait des tourbillons de sable et Bijaz levait désespérément la main devant ses yeux.
« Il faut nous hâter !»
souffla-t-il.
« Vite, vite !»«
Tu devines le danger ?» demanda Paul.
« Je le connais. »
Une impression de péril imminent. Une silhouette surgit de l'ombre d'un porche. Bijaz s'accroupit et gémit. Mais ce n'était que Stilgar. Il courait de toute la vitesse de ses jambes, lancé comme une véritable machine de guerre. Rapidement, Paul lui remit Bijaz et lui expliqua quelle était la valeur du nain. La vision semblait s'accélérer. Stilgar repartit avec Bijaz et des hommes de la sécurité surgirent autour de Paul. D'autres, exécutant des ordres brefs, coururent vers la maison au-delà de celle d'Oseïm, ombre parmi les ombres. « Encore des sacrifices », se dit Paul. « Prenez-les vivants !» lança un officier. Chaque mot, chaque son était un écho direct de la vision. La précision maintenant était absolue. Vision, réalité, les rouages étaient en accord. Tic pour tac. Des ornithoptères glissaient devant la lune. La nuit était soudain pleine de gardes impériaux lancés à l'attaque. Un sifflement perça entre les bruits de course. Il grandit, se mua très vite en un rugissement, si vite que les hommes avaient encore aux oreilles l'écho de la première note aiguë lorsqu'un halo de cuivre enveloppa les étoiles, effaça la lune. Ce rugissement, cette clarté, étaient ceux de la vision, du cauchemar. Et Paul éprouva un étrange sentiment de plénitude. Les choses s'accomplissaient ainsi qu'elles le devaient. « Un brûle-pierre !» lança une voix. « Brûle-pierre ! Brûle-pierre !» Le cri était repris de toutes parts. Parce que tous attendaient son geste, il leva un bras contre son visage et plongea à l'abri d'une maison proche. Bien sûr, il était déjà trop tard. Un pilier de feu montait vers le ciel, dressé sur l'emplacement de la demeure d'Oseïm. Il projetait sur les alentours une nappe de clarté dans laquelle dansaient les silhouettes des hommes en fuite et des ornithoptères frénétiques. Trop tard. Il était trop tard pour chacun des hommes prisonniers de cette nappe éblouissante. Le sol devenait chaud. Paul, immobile, devinait la fuite hasardeuse des gardes autour de lui. Il savait qu'il ne pouvait s'échapper. Le mal était déjà fait. Il ne pouvait plus qu'attendre que le brûle-pierre épuise son potentiel d'énergie. Les radiations avaient déjà pénétré leur organisme et commencé leur œuvre destructrice. Les effets de cette arme dépendaient des intentions véritables de ceux qui l'avaient utilisée, qui avaient osé braver la grande convention.
« Dieu, un brûle-pierre !»
gémit une voix dans l'ombre.
« Je ne veux pas être aveugle !»«
Qui le voudrait ?» lança un homme plus loin dans la rue.
Quelqu'un près de Paul grogna.
« Les Kleilaxus vont pouvoir vendre quelques-uns de leurs yeux dans le coin, c'est sûr. Maintenant que tout le monde se taise et attende !»
Ils attendirent. Silencieux, Paul réfléchissait aux possibles conséquences de la réaction. Un peu trop puissante, elle se prolongerait jusqu'au centre de la planète. La couche en fusion de dunes était lointaine, mais elle n'en était que plus dangereuse. Les pressions brutalement et anarchiquement libérées déchireraient le noyau et l'écorce, et les débris de dunes seraient projetés dans l'espace.
« Je crois que ça diminue un peu, » dit quelqu'un. « Ça s'enfonce, c'est tout, » dit Paul. « Restez à l'abri, tous. Stilgar va nous envoyer du secours. »
Stilgar s'est échappé?
Oui, il s'est échappé.
Le sol devient brûlant. Ils ont osé se servir des atomiques.
Le bruit diminue. Paul s'enferma dans son silence. Ses doigts effleurèrent le sol. Loin, très loin dans la planète, il perçut le grondement, le roulement de la chose.
« Mes yeux !»
hurla brusquement un homme.
« Je ne vois plus !»
Il était encore plus près que moi, songea Paul. Il leva la tête. Il distinguait l'entrée de la ruelle. La scène était comme enveloppée de brouillard. À l'emplacement de la maison d'Océim, un nuage rouge et or dominait le puits incandescent où pleuvaient régulièrement comme des ombres les débris des bâtiments voisins. Paul se mit sur pied. Lentement dans les profondeurs, le brûle-pierre mourait. Dans le distill, son corps était baigné de sueur. Le recyclage ne se faisait plus. L'air qu'il respirait était chaud et imprégné de l'odeur sulfureuse de larmes. Il regarda les hommes qui l'entouraient et le brouillard devint ténèbre. Alors il fit appel à la vision presciente qu'il avait eue de ces moments et s'inséra dans ce sillon que le temps avait tracé pour lui, s'y inscrivant si étroitement, si parfaitement, que désormais il ne pouvait échapper à la vision. Et ce lieu lui apparut comme le théâtre d'une possession immense où la réalité se fondait dans la prédiction. Des grognements, des gémissements naissaient autour de lui au fur et à mesure que les hommes prenaient conscience de leur cécité.
« Restez à vos postes !» cria Paul. « Les secours arrivent !»
Et il ajouta
« C'est Mouad Dib qui vous parle ! Je vous ordonne de demeurer à vos postes. Les secours arrivent !»
Silence. Puis, ce qu'il avait entendu dans la vision. « Est-ce vraiment l'empereur ? Qui peut le voir ? Dites-moi. » « Aucun d'entre nous ne peut voir, » dit Paul. « À moi aussi, ils m'ont pris mes yeux, mais pas ma vision. » Je peux vous voir contre ce mur sale à gauche. Il faut que vous attendiez avec courage, Stilgar arrive avec nos amis. Il y eut un bruissement d'ornithoptères. Une grêle de pas pressés. Paul tourna la tête, il les vit arriver. Et dans le souvenir de sa vision, le son de leur course était le même.
Stilgar !
Cria-t-il en agitant un bras.
Par ici ! Loué soit Shai Holud, vous n'êtes pas...
Dans le soudain silence, il vit que Stilgar venait de découvrir, éperdu de chagrin, les yeux morts de son ami, de son empereur.
« Oh, mon seigneur ! Uzul ! Uzul !»«
Et le brûle-pierre ? » demanda quelqu'un.
« Il est éteint !» dit Paul en élevant la voix. « Il faut secourir ceux qui étaient à proximité et dresser des barrières. Vite, à présent !»«
Monseigneur, vous voyez ?» demanda Stilgar. « Mais comment ?»
Paul ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main et ses doigts se posèrent sur la joue du vieux Fremen, au-dessus du masque du distill, et rencontrèrent des larmes. «
Tu n'as pas à me donner ton eau, vieil ami. Je ne suis pas mort. Mais vos yeux ?»«
Mon corps est aveugle, mais je garde ma vision, » dit Paul.
« Ah, Steel. Je vis un rêve d'apocalypse. Mes pas s'inscrivent dans ce chemin avec une telle précision. » Que j'en viens à redouter l'ennui à revivre ce que j'ai déjà vu. Uzul, je ne comprends pas.
N'essaie pas de comprendre. Accepte. Je me trouve dans le monde qui est au-delà de celui-ci. Pour moi, l'un et l'autre sont pareils. Je n'ai besoin de nulle main pour me guider. Je vois chaque mouvement autour de moi. Je vois chaque expression sur les visages. Je n'ai plus Dieu. Je vois pourtant. Stilgar secoua la tête.
Sire, nous devons cacher votre affliction à...
Nous ne nous cacherons d'aucun homme, Stil.
Mais la loi...
Nous vivons selon la loi des Atreides, Stil. La loi Fremen qui veut que l'on abandonne l'aveugle au désert ne s'applique qu'à l'aveugle. Je ne suis pas aveugle. Je vis dans l'arène où se déroule la guerre du bien et du mal. Dans la succession des âges, nous avons atteint un tournant et nous devons jouer les rôles qui nous reviennent. Dans le silence, il entendit le murmure d'un blessé que l'on emmenait.
C'était terrible, comme une tempête de feu.
Aucun de ces hommes ne doit être emmené dans le désert, dit Paul. Tu m'entends, Steel ?
Oui, monseigneur.
Il faut leur procurer de nouveaux yeux que je paierai.
Il en sera fait ainsi, monseigneur.
La voix de Stilgar était maintenant lourde d'émotion. Je rejoins l'ornie de commandement.
Relève-moi ici. « Oui, monseigneur.
Paul s'éloigna dans la rue. Sa vision lui révélait chaque attitude, chaque geste, chaque visage. Tout en marchant, il commença à donner ses ordres aux hommes de sa garde, appelant chacun par son nom, rassemblant autour de lui ceux qui appartenaient au gouvernement. Et derrière lui, la terreur naissait, les hommes chuchotaient.
« Ses yeux !»«
Mais il t'a regardé bien en face, et il t'a appelé par ton nom !»
Il atteignit l'orni de commandement et désactiva son bouclier. Il monta à bord, ôta le micro des mains de l'officier des communications éberlué et lança quelques ordres rapides. Puis il appela auprès de lui un spécialiste en armement, un jeune représentant de cette nouvelle race brillante et pleine de détermination qui n'avait plus que de très vagues souvenirs du temps des sièges. « Ils ont employé un brûle-pierre, » dit-il. L'homme hésita une seconde.
« C'est ce que l'on m'a dit, sire.
Vous savez ce que cela signifie, bien sûr. »
« Oui, le carburant ne pouvait être qu'atomique. »
Paul acquiesça. Les pensées de l'homme devaient se heurter brutalement sous son crâne. Les atomiques. Les armes interdites par la Grande Convention. Lorsque le coupable serait découvert, il encourrait les représailles de l'ensemble des grandes maisons. Les vieilles querelles seraient oubliées devant cette menace nouvelle et le réveil des peurs ancestrales. Une telle arme n'a pu être construite sans qu'il en reste des traces, dit-il. Vous allez rassembler le matériel adéquat et essayer de découvrir où elle a pu être mise au point.
Immédiatement, sire.
Avec un regard chargé de peur, l'homme s'éloigna. Monseigneur, vos yeux, dit l'officier des communications. Sans répondre, Paul reprit le micro et passa sur la fréquence réservée à son usage.
Appelez Shiny, dit-il. Dites-lui que je suis vivant et que je la rejoindrai bientôt.
À présent, songea-t-il, les forces se rassemblent. L'odeur de la peur était puissante autour de lui.